soir avec des confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Et pour ce soir, deux thèmes sont au menu de notre débat, à savoir, province du Nord Kivu, le M23 a commencé une campagne contre la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui prévoit l'envoi d'une brigade d'intervention pour neutraliser les groupes armés actifs en RDC. Et dans notre deuxième thème, nous nous rendrons dans la province du Bas-Congo qui est frappée depuis une semaine d'une série de grèves. D'une part, les chauffeurs et convoyeurs des véhicules poids lourds et d'autre part, les agents de la SCTP ex-ONATRA et celle des déclarants en douane de Boma. Trois confrères participent à ce débat. Médard Mbuyan Mangala, rédacteur en chef adjoint à la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Bonsoir Médard. Médard, vous êtes en ligne, bonsoir.
Bonsoir, je vous écoute bien.
Innocent Kabukala, coordonnateur de Global Télévision, émettant depuis Kinshasa. Bonsoir Innocent.
Bonsoir Kelly, bonsoir à tous les auteurs de Radio Kapi.
Et Trésor Makunya Mouindo, journaliste à la radio Mitsumba d'Uvira et correspondant du journal City à Grand Lac au sud Kivu. Présentement, vous vous trouvez à Goma. Trésor Makunya, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir Médard, bonsoir les auditeurs de la radio Kapi.
Merci de nous suivre partout en RDC sous la fréquence FM et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite a analysé les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Alain Hirung.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la campagne menée par les M23 contre la brigade d'intervention des Nations Unies. Pour l'avenir, c'est vraiment la panique générale qui est constatée dans le camp du M23. Depuis un certain temps, ce mouvement rebelle multiplie des initiatives, dont la première est l'organisation d'une marche de protestation pour démontrer son hostilité face à l'envoi d'une brigade d'intervention qui a reçu mission de traquer le M23 et d'autres forces négatives qui pilulent à l'est de la RDC. Selon le Phare, marche du M23 contre la brigade spéciale, terrible défi à la RDC et à l'ONU. Des centaines de Congolais résidant dans les territoires contrôlés par le M23 de Bunagana à Kibumba, en passant par Rutshuru, ont dû prendre précipitamment le chemin de la brousse mercredi 10 avril dernier. C'était pour se soustraire à l'appel des responsables de cette force négative, les invitant à participer à une marche de protestation contre la brigade spéciale des Nations Unies à déployer dans cette partie du pays. Faute de participants, l'activité a été reportée au dimanche 14 avril. D'après le potentiel refusant une marche contre la brigade de la MONUSCO projetée par le M23, les habitants de Niragongo fuient leur maison. Des sources de la société civile indiquent en effet que ces personnes ont déserté leur toit en guise du refus de participer à une marche que projetait pour mercredi dernier les dirigeants de la rébellion du M23 à Kibumba à 17 km de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, contre le déploiement annoncé de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Concernant la série des grèves qui paralysent la province du Bas-Congo, Forum des As de son côté évoque la reprise à Matadi de la grève des conducteurs des poids lourds et constate que Modeste Bahati, le ministre du Travail, Emploi et Prévoyance Sociale, accuse la FEC patronat congolais. Le potentiel souligne qu'au sujet de cette grève, les camionneurs grognent, le gouvernement menace, les transporteurs défient. À ce jour, ajoute le confrère, les chauffeurs et convoyeurs justifie cette grève par le fait que leurs employeurs n'ont pas respecté les engagements pris le 13 janvier à Kinshasa. Forum des As explique que du côté de l'ex-ONATRA, syndicats et employeurs en discussion depuis hier à Kinshasa. Parmi les autres sujets d'actualité, on peut notamment citer le dépôt hier de la motion de défiance contre le Premier ministre Matata Ponyo à l'Assemblée nationale et la présentation au ministère de l'Intérieur d'une bande qui, selon la police nationale congolaise, visait l'attaque du cortège du chef de l'État.
Merci Alain Hung. Et parmi les autres sujets, comme on l'a suivi dans la revue de presse, il y a la motion de défiance contre le Premier ministre Matata Ponyo qui a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale. Un mot Innocent Kabukala par rapport à cette motion qui avait été d'abord suspendue puis réactivée après par l'honorable Baudouin Mayo.
Il faut dire tout simplement que dans l'exercice normal de son travail comme tel député, et sûrement qu'il a eu à recueillir un certain nombre d'informations qui constituent sa démarche qu'il a pu mener, mais le plus important c'est que dans cela Matata Ponyo, on lui reproche bien des choses en tant que chef du gouvernement, et que passer par cet exercice pourrait éventuellement donner quelques éclairages que lui reprochent les députés. Je trouve que la démarche, elle est normale, mais ce qui frustre un peu, c'est lorsque on tente et puis on la retire, finalement la reprendre, et on se pose bien de questions, est-ce qu'il y a-t-il des motivations, des visées qui ne disent pas jusque-là leur nom? Bon, on pourra voir dans les tout prochains jours, mais il faut seulement constater une démarche tout à fait naturelle pour un député qui aurait des choses à redire sur la gestion du pays par le Premier ministre Matata Ponyo.
Bouyal Mangal, il y a aussi cette autre actualité, c'est énième coup d'État manqué contre le président de la République. Un mot là-dessus?
Donc, je me dis, il nous arrive parfois que ceux qui ont la gestion de l'État, notamment les services, plusieurs fois ils vont vite en besogne. C'est des cas qui existent un peu partout, mais la manière de présenter les choses participe soit à rendre vulnérable le pays, soit à discréditer le pays en diffusant n'importe quoi. Donc il faut tomber sur les dossiers, il faut qu'ils prennent suffisamment du temps avant de rendre publique une décision telle vous voulez attenter au président de la République. On ne peut pas à la fois diffuser l'image de la stabilité tout en diffusant n'importe quoi. Alors donc, ça participe à rendre le pays vulnérable. Donc on est appelé à gérer l'image des marques du pays. Et les responsables des services devraient aussi être attentifs à la diffusion du n'importe quoi. Ça ne peut pas être à deux ou à trois personnes et prétendre atteindre facilement le chef de l'État. C'est comme si le chef de l'État est à la portée du premier venu. C'est pas possible.
Trésor Makounia, vous intervenez depuis Goma, dans le Nord Kivu. C'est quoi l'actualité aujourd'hui dans cette province?
Oui, Kelly, en fait, outre, vous le savez bien, vous savez autant que moi, L'M23 a depuis un temps commencé une campagne pour discréditer au fait cette brigade des Nations Unies qui viendra intervenir. Et déjà à Goma, il y a certaines personnes qui craignent déjà une attaque imminente de ces mouvements rebelles pour reprendre la ville afin que cette brigade puisse au fait la rencontrer dans la ville déjà. Outre cela, il y a aussi la réhabilitation de plusieurs tronçons de la route ici à Goma. On est en train de poser de Mankadam, une société du nom de Trafumeco, mais la crainte de la population, c'est que les travaux se déroulent à pas de tortue et on ne sait pas, ça augmente les coûts de transport, il y a plusieurs déviations, il y a des embouteillages, et donc on voudrait que l'autorité puisse s'impliquer afin que ces travaux soient réalisés rapidement et que tout revienne normal, quoi.
Premier thème de ce soir, Nord Kivu, le M23 a commencé une campagne contre la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui prévoit l'envoi d'une brigade d'intervention pour neutraliser les groupes armés actifs en RDC. Les derniers faits en date sont le blocage d'une dizaine de véhicules de la MONUSCO à Rutshuru et l'organisation d'une marche forcée de la population civile à Nyiragongo. Plusieurs personnes du territoire de Nyiragongo se sont déplacées, et surtout des jeunes. Une façon pour elles de se soustraire à la marche imposée mercredi dernier par le M23 contre la brigade d'intervention de l'ONU. Gisèle Cage nous fait le point.
Selon plusieurs sources, ces populations, en majorité des jeunes gens des groupements de Kibumba et Buhamba en territoire de Nyiragongo, ont trouvé refuge vers Kabagana et Kabuhanga à la frontière entre la RDC et le Rwanda. C'est pour fuir la marche programmée ce mercredi par le M23, une marche qui devait partir de Kibumba pour Goma, soit un parcours d'environ 30 km à pied en territoire de Nyiragongo. La société civile du Nord Kivu interpelle à cet effet la communauté internationale. Omar Kavota est porte-parole de la société civile.
La population du territoire de Nyiragongo n'a pas voulu participer à cette marche, craint pour sa sécurité. C'est pourquoi la plupart des habitants ont fui vers les zones frontalières pour échapper à la colère de Makenga et ses hommes. Nous nous inquiétons pour leur situation et nous en interpellons les Nations Unies et les autres partenaires de la CIRGL face à ces menaces contre la population que le M23 est en train de multiplier pour amener la population à s'opposer à cette brigade des Nations Unies.
Le nombre de protestataires n'est pas encore connu. Un notable de Nyiragongo indique que, suite à cette situation, le M23 a annulé cette marche. Elle est toutefois reprogrammée pour dimanche prochain, précise la même source. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
Il faut aussi dire que ce mouvement rebelle a écrit aux parlementaires sud-africains pour qu'ils découragent leur armée à participer à la brigade d'intervention des Nations Unies en RDC. Innocent Kaboukala, je rappelle que vous êtes coordonnateur de Global Télévision, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Quelle analyse vous faites de l'attitude du M23?
Il y a un point à résumer. ce point, c'est une stratégie, tout simplement. Parce qu'on ne va pas dans des négociations en victime, résignée, pratiquement. Le contexte actuel se prête à une reprise de pourparlers de Kampala. Et vous vous souvenez que quelques temps auparavant, le gouvernement central, Isaac Kinshasa, demandait au M23 de s'autodissoudre à la suite de cette résolution 2098. Comprenez ? Mais maintenant que les travaux ont repris, mais il ne faut pas y aller en toute faiblesse. C'est que pour le M23, la stratégie, c'est de reprendre de la force, de sorte que leur point de vue ne soit pas anéanti. Parce que déjà, à partir de toutes les résolutions, on part de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui, dans une certaine mesure, vide un peu l'essentiel des revendications de ce M23, alors qu'il voudrait bien exister. Aujourd'hui, on dit que le M23, du moins s'il faut considérer les termes qu'on a pu utiliser dans les sièges des Nations Unies, on les a classés pratiquement des forces négatives. Et donc, une force négative, on ne parle pas avec. Et pourtant, à Kampala, on parle avec cette force négative. C'est que les M23 voudraient prouver à la face du monde qu'ils ne sont pas une force négative comme le serait la LRA ou les FDLR du côté Rwanda. Et si le M23 voudrait exister comme mouvement, comme tel, existant, et qu'il y a des revendications, lesquelles revendications sont fondées. Et pour la plupart de cas, vous verrez que les éléments viennent de la grande inquiétude que nous avons en République démocratique du Congo. Le problème de l'effectivité du pouvoir, la légitimité, et tous ces éléments pour la M23 constituent des éléments qui peuvent effectivement leur permettre de revendiquer quelque chose. Ils ont constaté aussi que le gouvernement central est un gouvernement faible. Et que la faiblesse du gouvernement leur permet effectivement de reprendre certaines des revendications internes ici pour faire exister leur mouvement. Lutter contre l'envoi de cette force, de cette brigade d'intervention, et utiliser la population, mais parce qu'on sait qu'effectivement il se pose le problème de l'effectivité, nous l'avons dit la fois dernière, de ce pouvoir-là. Les partis qui ont été cités, les localités, les villages, et même les villes qui ont été citées, sont des villes qui sont dans une certaine faiblesse. Et par conséquent, on sait qu'il n'y a pas de gouvernement comme tel là-bas, et cela pourrait marcher. Voilà pourquoi ils en ont profité, ils se sont appuyés sur ces aspects pour faire entendre leur voix.
Mais est-ce que c'est une bonne stratégie pour se faire entendre?
Bon, je ne sais pas, je suis peut-être mal placé pour parler de bonne ou mauvaise stratégie, mais je dois dire, pour mon pays, c'est un danger. Pour mon pays, c'est un danger, c'est que le gouvernement de la République devrait se montrer beaucoup plus responsable. Mais malheureusement, nous sommes dans une situation de faiblesse, et voilà pourquoi cela nous arrive. C'est que moi, je comprends, en faisant de l'analyse comme journaliste, je comprends la position, l'attitude du M23 qui ne veut pas mourir, qui veut exister. Est-ce qu'on est en train de distraire quelqu'un? Je ne pense pas, mais on est en train de martyriser davantage ma population, donc la population de la République démocratique.
Merci, Nonson Kabukala Médard Mbuyal Mangal, rédacteur en chef adjoint à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Vous êtes aussi d'avis que cette contre-campagne menée par le M23, comme l'a dit Nonson, est une initiative de défense stratégique?
Oh, mais quelle défense stratégique qu'elle écoutait. Au fait, M23 est conscient qu'en fait, l'arrivée de la brigade, on va lui délivrer l'acte du décès. Alors, face à ça, c'est des stratégies des dernières minutes qui ne peuvent pas aller très loin. Dites-vous, moi, j'ai eu la chance comme journaliste d'arriver à Goma le 2 septembre 2011, à la faveur de l'arrivée du secrétaire, le 2 septembre 2001, à la faveur de l'arrivée du secrétaire général de l'ONU à Kisangani. Donc, en ce moment-là, nous, on a eu à constater l'impopularité du RCD Goma, et à Kisangani, et à Bukavu, et à Uvira, et même à Goma. Alors, le M23 veut reprendre ces choses-là, et ce qui est en train de lui arriver, c'est le premier test d'impopularité. Voilà qu'on n'a pas encore organisé les élections, le M23 qui veut s'insérer dans un mouvement démocratique, voilà que la population de l'espace qu'il est en train de contrôler, lui dit non. C'est une preuve que les Congolais ne veulent pas du M23. Les Congolais sont conscients que même si, au-delà des difficultés que rencontre le gouvernement actuel, au-delà des difficultés imposées par le gouvernement ou les pays voisins, les Congolais ne veulent pas de la répartition du pays. C'est cela le message. Les Congolais ne veulent pas qu'on donne des béquilles au M23, parce que la rencontre de Kampala, en fait, c'est pour donner
de Béki à un mouvement qui est déjà rejeté par la population. Parce que s'il y avait une popularité, s'il y avait des défenseurs de M23, on devait les retrouver à Bounagana. Si à Bounagana on dit non, ce n'est pas à Kinshasa qu'on va jeter des habits pour accueillir le M23.
Mais Kinshasa négocie avec le M23 à Kampala Midar.
Oui, même si on est en train de négocier, c'est peut-être une stratégie, c'est pour donner des béquilles. Voilà mon expression. Donc,
alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donner des béquilles. Expliquez-vous, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Au fait, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de la force qu'il lui faut, vous lui donnez un espace de survie.
Les négociations
de Kampala, c'est pour donner un espace de vie au M23.
Mais
en réalité, si le gouvernement s'était cabré et avait refusé, on trouverait des possibles. Parce que le M23, même s'il reprenait Goma, va être partenaire avec qui? Ça sera en face de la MONUSCO, ça sera en face de l'Union européenne, ça sera le partenaire de quel gouvernement, de quelle institution internationale.
Nous sommes
à l'aide de la production de l'image. Est-ce que l'image du M23 se vend? Je dis non. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez même remonter l'histoire. Nous, dans l'Assemblée nationale où il y a 500 députés, posez-vous la question, le RCD a combien de députés? Parce que le M23, c'est la continuation du RCD et du CNDP. Mais après les élections de 2011, le RCD a combien de députés? On doit tirer les leçons de l'histoire.
Alors, Médard, vous parlez d'espace de survie que le gouvernement voudrait donner au M23, alors qu'on sait que ce mouvement révèle est classé parmi les forces négatives de la RDC.
Mais justement, c'est une manière de contraindre le gouvernement à cesser d'aller vers Kampala. Donc, la Kampala devient une formalité.
Trésor Makounia, journaliste à la radio Mitumba Duvira et correspondant du journal Sifia Grand, la Côte de Kivu. Présentement, vous êtes à Goma, Trésor Makounia. Quelle est votre lecture de cette contre-campagne menée par le M23 contre l'envoi d'une brigade d'intervention pour neutraliser les groupes armés actifs en RDC?
Oui, justement, nous savons bel et bien que une personne qui sent sa mort prochaine n'a jamais cessé de jouer les choses afin de voir laquelle lui sera meilleure pour lui épargner des plaies. C'est ainsi qu'on peut voir par exemple le M23 qui a déjà conscience de ce qu'il attend, mais ça sent plus à quel fin c'est voué. Elle intimide, elle frappe sur toutes les portes afin de voir si on peut retirer l'arrivée ou retarder l'arrivée de cette brigade des Nations Unies afin que ses besoins soient assouvis. Mais il y a lieu, comme tu as posé la question à un confrère, de se poser qu'est-ce que cette campagne est fondée. On voudrait par exemple que le M23 précisément, parce que de ces mouvements qu'il est ici question, voudrait que cette brigade ne vienne. Pourquoi? Parce que justement on va d'abord quand on parle de l'élimination du M23, de la suppression totale, c'est que toutes ces revendications seront annihilées. Et ces revendications, normalement, qui devront être satisfaites d'une manière ou d'une autre par les pourparlers de Kampala, sur l'intégration militaire et politique, la reconnaissance de certains avantages, mais comme il a été le cas à l'époque du CNDP dans des programmes à Manileo, tout ça. Et donc, comme cette brigade arrive, comme cette brigade viendra supprimer ces mouvements, tous ces avantages ne seront plus reçus. Alors, le M23 veut utiliser un argumentaire du genre les militaires sud-africains ont été tenus en échec en Centrafrique et si jamais ils arrivaient ici, ils seraient aussi, vont subir aussi le même sort, ce qui pratiquement ne sera pas le cas. Parce que la situation centrafricaine et la situation congolaise sont deux situations tout à fait différentes. Les M23 Kelly doivent avoir leurs pieds sur terre parce qu'ils ne sont pas les seuls à être dans le collimateur des forces des Nations Unies. Il y a les APCLS, il y a les ADF Nalu, il y a les FDLR et d'autres groupes d'armées qui sont actifs à l'aide de la démocratie du Congo. Je vais même en citer les Bakata Katanga. Donc il y a beaucoup de trucs, il y a à boire, à manger là-dedans. Donc le M23 veut simplement, comme on le disait, c'est une stratégie afin de voir comment mourir en paix. Donc on meurt sur le plan militaire, mais politiquement, il y a des cadres qui entrent dans la fonction publique, il y a des cadres qui sont nommés ministres, il y a, et des accords en accord. Voilà.
Et vous pensez, Trésor Makounia, qu'avec l'arrivée de cette brigade d'intervention, ce sera la mort du M23.
Oui, justement, parce que sur les plans stratégiques, sur les plans militaires, la brigade vient imposer, vient combattre. Donc quand vous lisez la résolution, la brigade agira avec ou sans les FARDC. Et donc c'est l'offensive. Et lorsqu'il y a combat, à moins que les M23 usent de certaines méthodes déjà prohibées en droit international, de prendre notamment la population comme bouclier, de s'infiltrer dans la population, mais j'espère, ce sont des militaires formés et s'ils affrontent les mutins du M23, j'espère que ce sera d'une certaine manière une suppression immédiate. Alors, la question est de se poser, est-ce que la mort éventuelle du M23 est automatiquement la mort des prochaines des prochaines tensions ou des prochaines créations des mouvements rebelles, parce qu'on a vu ici à la création intempestive et continue des mouvements rebelles. Est-ce que si tout le M23 disparaît, il y en aura d'autres, comme on a vu le RCD est parti, il y a eu le CNDP, bientôt le M23, et demain je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura. Merci. Donc ce sont des questions qu'il faut se poser, il y a des causes, il faut d'abord soigner les causes avant de s'attaquer aux conséquences. Donc, la disparition du M23 n'est pas la solution, mais la solution, c'est d'abord trouver pourquoi il y a des mouvements rebelles qui naissent, pourquoi il y a des mutins chaque fois, pourquoi. Et là, on ne va plus assister à rien des problèmes. Et
merci, merci, Trésor Makounia, Innocent Kaboukala. La force neutre, plutôt la brigade d'intervention, va neutraliser, va mettre fin, va tuer. C'est des termes qu'on a entendus, le mouvement rebelle M23. Mais entre-temps, ce même mouvement négocie avec le gouvernement à Kampala. Comment ça va se passer d'après vous?
Je ne sais pas si Médard s'est rendu compte que lorsqu'il parle du « on », bien sûr qu'il y a un pronom impersonnel, lorsqu'il dit qu'on veut donner de la survie au M23, et en même temps on parle de ce gouvernement qui négocie avec le M23 à Kampala. Je ne sais pas si ça rend compte qu'il est en train de dire en fait que le gouvernement voudrait légitimer en même temps les revendications du M23. Parce que si on doit rester dans la logique qui voudrait que la mort du M23 est certaine, je ne vois même pas pourquoi on reprendrait le chemin de Kampala. C'est que la thèse selon laquelle le M23 devrait se dissoudre à partir de cette résolution, donc le M23 ne pouvait plus se donner ce luxe-là. Mais si le M23 y revient, c'est parce qu'il faut que mes confrères sachent que le problème de la RDC au stade actuel, c'est la question des revendications que les uns et les autres sont en train de produire sur l'ensemble des questions que nous avons, sur l'ensemble de la gouvernance en République démocratique du Congo. La marche de notre pays, elle n'est pas bonne. C'est pour cela qu'il y a ces revendications. Que ces revendications viennent du M23. De Bakata Katanga ou d'autres mouvements comme on en a vu là que Médard a cité, donc les quelques deux personnes effectivement, parce que je partage ce point de vue là, deux personnes ne vont pas quand même arriver à neutraliser tout un chef de l'État, mais c'est des éléments qui disent qu'il y a des mécontentements. Il y a des mécontents dans notre pays et qu'il faut prendre en compte tout cela. C'est pour cela que nous avons les M23. Alors, si le gouvernement devait rester dans sa logique, si on croit effectivement à la résolution 2098 et à l'arrivée de cette brigade d'intervention, je pense qu'on devrait cesser d'aller à Kampala. Mais quand on y va, c'est qu'il y a quelque chose apparemment que beaucoup ne maîtrisent pas. Mais nous sommes des journalistes, nous avons quand même assez d'informations.
Et qu'est-ce qui se cacherait derrière tout ça?
Le problème, c'est qu'il y a des vrais problèmes tels que les 1-23 sont en train de le poser. Il y a des problèmes, oui, il y a ces problèmes, il faut trouver des solutions. Parmi les problèmes majeurs, il y a le problème de l'effectivité du pouvoir. La question de légitimité, on ne s'en cache plus, on sait. La question de la sécurité, c'est une des grandes questions. Aujourd'hui, d'ailleurs, lorsqu'on parle de la motion contre le Premier ministre, on sait que là-dedans, il y a une bonne partie réservée à la situation d'insécurité que nous vivons dans notre pays, parce que parmi les missions régaliennes pour un gouvernement, c'est aussi sécuriser la population. Mais ces gens-là, pourquoi ne se sentent-ils pas sécurisés par l'M23? C'est parce qu'ils savent aussi que le gouvernement ne les sécurise pas. C'est pour cela que toute cette partie-là est fragile. Donc, il y a beaucoup de choses qui demandent que nous puissions regarder de près et non pas aller tomber dans des contentements du genre, non, mais voilà, la brigade viendra, le M23 sans sa mort prochaine, donc ça va. Non, ce n'est pas ça le problème. Il y a une question fondamentale. Cette brigade pourra venir, on pourrait avoir une accalmie, mais pour combien de temps? Parce que le pays, lui, devra être appelé à vivre tout le temps que la terre subsistera, le pays sera là.
Et est-ce qu'on aura après pas... le départ de cette brigade, il y a peut-être des groupes armés qui vont...
Qui peuvent naître
ou ressurgir.
Mais bien entendu, c'est clair. Parce que la situation des Nations Unies ne date pas d'aujourd'hui. On en a parlé déjà vers les années 60. Et aujourd'hui, on en est encore à ce stade-là. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes qui sont réels. Et quand on fait des analyses, faisons ces analyses sur base de ces problèmes-là et non pas nous attarder trop sur... Alors, c'est ainsi que j'ai dit tout à l'heure que la question du M23, c'est une question stratégique. Le M23 ne veut pas mourir sans voir se réaliser certaines de ses revendications. Du reste, ont été quelque part vidées à partir de l'accord cadre d'Addis Abeba. Parce que si le M23 parle du problème de légitimité, de l'effectivité du pouvoir, la démocratie et la poursuite de la décentralisation, tout ça, c'est des éléments qu'on a retrouvés dans l'agenda du M23. Mais c'est déjà au niveau de l'accord cadre, on en a parlé. Donc vous comprenez que le M23 voudrait ne pas rater le train qui pourrait être là dans les jours qui viennent.
Merci Innocent Kaboukala, Médard Mbouyal Mangala. Le M23 ne veut pas mourir sans voir certaines de ses revendications accomplies, comme vient de le dire Innocent Kaboukala. Vous êtes du même avis?
Kelly, je m'interdis de m'inscrire dans la stratégie de Kaboukala qui se présente, qui fait le plaidoyer du M23.
Non,
moi, je viens de vous citer un cas que j'ai vécu comme journaliste congolais. Je me dis, à l'époque, ici à Kinshasa, avant le dialogue inter-congolais, la plupart des partis politiques étaient convaincus que le RCD était en train de mener leur combat. Mais le RCD est arrivé à Kinshasa, le RCD n'a pas permis à l'UDP, qui était un parti majeur, d'accéder à la vice-présidence de la République. Pourtant, le RCD donnait l'impression qu'il soutenait Étienne Tshisekedi. Le RCD a donné l'impression qu'il soutenait l'UDPS. Ça n'a pas eu lieu. Et donc le M23 ne peut pas soutenir un mouvement politique. On ne peut pas prendre des armes pour des revendications démocratiques. Parce qu'on sait, lorsque vous analysez des résultats actuels, lorsque le RCD occupait des espaces, c'était un parti majeur. Tout le monde voulait être aux côtés du RCD. Mais après la tenue des élections, où est la place du RCD dans les institutions? Donc on préfère, c'est des partis qui ne peuvent vivre qu'au travers des armes.
Mais
donc, c'est pas la démocratie. Et donc le M23 ne s'inscrit que dans la logique, ne peut vivre qu'avec des armes à la main. C'est pas pour le besoin de démocratie. Et encore, s'il faut revenir à la motion, mais c'est pour la motion contre le premier ministre. C'est pour le besoin alimentaire. Quand on sait que les députés, quand ils crient, une fois l'argent libéré, ils vont se taire. Ces députés-là, ils ne plaident pas pour la cause des citoyens. En réalité, il y a déjà un écart étroit entre la plupart des députés et les citoyens, ceux qui les ont élus.
Mais Mouyal, est-ce qu'on ne veut pas une chose et son contraire finalement? On veut neutraliser les M23 comme mouvement rebelle. Entre-temps, pour parler des Kampala en repris, est-ce pour légitimer les revendications du M23 comme l'a dit Innocent Kaboukala?
Il y a certes des contradictions au niveau des acteurs qui ont certainement un agenda que nous ne maîtrisons pas. Mais aujourd'hui, la pertinence d'aller à Kampala ne se justifie pas. Mais déjà dès le début, on est allé à Kampala parce qu'on était pratiquement à genoux. Mais cette situation a permis d'identifier qui est l'acteur qui est derrière le M23. Ça ne s'en cache pas. Lisez tous les rapports des Nations Unies. Ils démontrent la présence militaire rwandaise et ougandaise sur les territoires congolais. Ça, c'est établi. Voilà ce qui représente l'enjeu de rencontre de Kampala. C'était peut-être parvenu parler aux Rwandais ou parler aux Ougandais d'une certaine manière. Mais
Merci. Aujourd'hui,
coupé de la base arrière, le M23 coupé de l'appui de l'Ouganda, le M23 coupé de l'appui du Rwanda, le M23 vaut quoi?
Merci, Médard Mbouyal Mangal. Trésor, brièvement, solution politique ou militaire?
Par rapport au M23, je crois qu'il y a les deux solutions sont possibles. Les deux solutions sont possibles lorsque vous analysez, par exemple, le président de la République à l'époque disait, nous allons résoudre la question sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan diplomatique. Mais sur le plan militaire d'abord, il faut arriver d'abord à supprimer ces mouvements. Il faut aussi arriver à supprimer d'autres mouvements. Il faut, sur le plan politique, arriver à satisfaire certaines questions d'intérêt général et d'intérêt commun au pays. Pourquoi? Parce que déjà quand on dit par exemple le M23 est en train de lutter afin que la vérité des urnes soit rétablie. Vous pensez que c'est la brigade des Nations Unies qui viendra rétablir la vérité des urnes? Non, la vérité des urnes, c'est rétablie par les institutions congolaises. La brigade vient combattre et une fois l'un des trois supprimés, ces problèmes vont rester, d'autres mouvements vont naître. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas résolu la question. Il faut arriver à résoudre certaines questions qui sont pratiquement les causes dont je parlais avant d'arriver aux conséquences. On sera en train de soigner les conséquences, on demeure dans le statu quo, les causes restent les mêmes, nous savons bien que les mêmes causes produisent les mêmes effets, et demain, pourquoi pas en 2020, en 2016, en 2015, il y aura d'autres mouvements rebelles qui vont naître, et on va crier, on est attaqué, on est agressé, au lieu d'attaquer nous-mêmes nos problèmes.
Merci Trésor Makounia Mouindo. Deuxième et dernier terme de ce soir, la province du Bas-Congo est frappée depuis une semaine par une série de grèves. D'une part, les chauffeurs et convoyeurs des véhicules poids lourds et d'autre part, les agents de la SCTP ex-ONATRA et celle des déclarants en douane de Boma qui avaient observé un arrêt de travail. Il y a quelques jours, plusieurs raisons sont à la base de ces grèves. Guy Roger Nyampala depuis Matadi dans la province du Bas-Congo nous fait le point de la situation.
La grève des camionneurs poids lourds se poursuit dans le Bas-Congo. Après 5 jours du déclenchement de cette grève, la situation reste la même. Ce vendredi à Matadi, il s'est tenu hier une réunion à la mairie à ces sujets. On prit part à cette rencontre le directeur de cabinet adjoint du ministre de Travail, un membre du ministère de Transport, l'inspecteur général du travail, l'intersyndical, le représentant de la Fédération des entreprises du Congo, ainsi que le président de la Force ouvrière du Congo, FORC, le syndicat des camionneurs. C'était en présence du maire de la ville et de certains chauffeurs. Il était question d'échanger sur les avancées réalisées par rapport à cette situation de grève. Après un travail d'une journée, la dite délégation est rentrée sur Kinshasa pour faire rapport au gouvernement. Il faut rappeler que le gouvernement a accordé un délai de 5 jours aux sociétés de transport pour qu'elles se mettent en règle afin de payer la somme de 300 000 francs congolais aux chauffeurs et 150 000 francs congolais aux convoyeurs, tel que convenu dans les accords signés à Kinshasa il y a de cela plus de 3 mois. L'autre grève, c'est celle des agents de la société commerciale de transport et de port ex-ONATRA, travaillant au port international de Matadi, qui est à son 4e jour. Ils réclament, entre autres, le paiement de leur salaire au taux de 920 francs congolais pour 1 dollar et non à 530 francs congolais comme ils reçoivent aujourd'hui. De leur côté, le déclarant en douane de la ville de Boma avait observé un arrêt de travail il y a de cela une semaine pour protester contre la mesure du gouvernement qui interdit l'entrée des véhicules de plus de 10 ans en RDC. À ce jour, une tension est perceptible au niveau de la ville portuaire de Boma à ce sujet, selon diverses sources. Matadi, Guy Roger Nyampala, Radio Kapi.
Merci Guy Roger Nyampala. Innocent Kiabukala, coordonnateur de Global Télévision, une télévision qui met depuis Kinshasa, grève des transporteurs routiers, grève des agents de la SCTP ex-ONATRA, grève des agents sans douane. Il y a un problème.
Il y a un problème de sécurité sociale de façon globale. Parce que ce soit les chauffeurs, on parle du salaire qu'il fallait majorer et avec une grande difficulté pour pouvoir les réaliser. Et là-dedans, on va vous parler des taxes qu'on paye, des éléments qui interviennent qui ne permettent pas de réunir le montant requis pour pouvoir faire ce travail-là. Alors, ça devient quand même une situation assez trouble. Je prends le cas de revendication des agents de la société de transport. La SCPT. En vertu de quel principe? Parce qu'on sait très bien que sur le terrain, la paix se fait effectivement en francs congolais. Mais on sait que les prix pour la plupart de denrées, bien qu'il y a eu la mesure du gouvernement, que nous avons tous salué d'ailleurs à l'époque, lorsqu'on a parlé de l'affichage de prix en francs congolais, parce qu'il faut quand même faire exister, nous sommes un pays, il faut faire exister cet état-là, à travers notamment certains éléments dont l'affichage de prix, ça fait quand même plaisir, quand vous allez, même si on sait qu'on peut trouver l'équivalent en dollars, mais quand on va quand même le trouver en francs congolais, ça signifie qu'on a, on veut quand même donner un peu de la valeur à notre monnaie, parce que ça existe quand même. Mais pourquoi ne pas faire correspondre cette réalité, cette paye à ce prix des biens et des biens des services, même les biens de consommation? Pourquoi on ne peut pas faire correspondre? Je crois que c'est une revendication tout à fait légitime. Il faut faire correspondre. Et non pas, vous dites, bon, vous payez des salaires qui paraissent peut-être énormes, mais lorsqu'on va faire la correspondance, on trouve que c'est vide. Donc ces revendications sont tout à fait trouvent leur place là-dedans.
Et ils ont le droit d'aller en grève.
Bon, c'est à partir du moment que la grève, c'est un droit reconnu. La grève, c'est un droit reconnu pour tout travailleur, pour tout citoyen. S'il estime que quelque part et là, ça ne marche pas, il peut effectivement se comporter de cette manière-là. C'est pour cela que moi, j'encourage que les autorités de cette entreprise essaient un peu de tenir compte de cela. Bien sûr que ça implique beaucoup de mécanismes là-dedans, mais c'est une question qui doit être mis sur la table et que de manière concrète on puisse y trouver du répondant. Je crois qu'on on pourra diminuer tant soit peu la tension. Il en est de même de ces véhicules dont on parle,
des transporteurs
plus routiers. De 10 ans. Bon, plus de 10 ans.
Non, c'est 10 ans, voilà.
Plus de 10 ans, ça ne peut plus rentrer.
Là, vous parlez des âges des déclarants.
Des déclarants. Oui, mais parce que ce sont des éléments qui se lient, qui se tiennent. Comprenez, plus de 10 ans, qu'est-ce que cela signifie-t-il? Est-ce que c'est le moteur qui serait pas en bon état? On ne sait pas trop vérifier. Mais moi, je pense qu'on aurait pu utiliser des termes du genre qu'un véhicule qui ne peut pas répondre à une certaine norme ne peut pas. Mais déterminer, moi, ça me paraît un peu difficile. Quand on sait que, par exemple, on peut passer des commandes en Europe, des véhicules qui ont plus de temps, mais qui n'ont pas assez circulé. Ça peut arriver. Comprenez. Alors, sur cette question-là, je pense que nous l'avions dit.
Le gouvernement doit revoir.
Il doit être capable de revoir parce que nous l'avions conseillé déjà en décembre dernier. Je crois que c'était la question lorsqu'on parlait du moratoire, en fait, de la date butoir qui était accordée pour ces véhicules-là. Je crois qu'il y a quand même un travail de fond que l'on peut faire. Il y a des questions beaucoup plus importantes que cela qui peuvent être posées parce que parmi les éléments qu'on avançait en argument, notamment les accidents des 200 essais et tout ça, on pensait que ça pouvait répondre à ces genres de questions. Je pense pas.
Mesdames Bial Mangal, parlons des transporteurs routiers qui font l'axe Kinshasa-Matadi. On se rappelle qu'il y a eu des accords signés après leur dernière grève il y a quelques temps, mais du côté des employeurs, ils n'ont pas respecté ces accords signés. Est-ce qu'on peut parler de l'impunité?
Non, à ce niveau, il n'y a pas de raison d'évoquer la question liée à l'impunité. Mais il y a eu plutôt des incompréhensions ou de la non-exécution de la volonté exprimée par les partis en présence. Du côté des transporteurs, c'est quelle catégorie de transporteurs dont on parle là? Dans la plupart des cas, c'est des Libanais, c'est des Pakistanais. Or, dans la catégorie de ces gens-là, le gros des gens qui gèrent le personnel, c'est des analphabètes. Mais il arrive que ces gens préfèrent payer de l'argent non pas au service de l'État, mais préfèrent donner de l'argent à leur chapeau, à leur protecteur. Si auprès du service de l'État, il était par exemple question de payer 5 000 francs, ils préfèrent payer 500 000 francs à un protecteur au lieu de payer 5 000 francs. C'est le comportement qui est très visible lorsqu'on travaille avec des Libanais, des Pakistanais et autres. Parce qu'ils préfèrent peut-être ne pas payer l'argent à leurs travailleurs, et compter sur le soutien des généraux, des colonels, des capitaines qui les protégeraient.
Mais donc, le gouvernement doit sanctionner, Mbouyal.
Oui.
Le gouvernement doit sanctionner ce genre des comportements.
Oui, même il y a un cas qui a été créé entre le gouvernement et la SEC. Il était entendu que dès que le problème surgit, les deux parties devaient se retrouver. Or, on a constaté que c'est le gouvernement qui a été le premier à se lancer sur les marchés, à dénoncer la non-exécution des rapports. Du côté de la FEC, il n'y a pas encore de réaction et donc non, il y a un vide d'information. Donc on n'a pas suffisamment d'éléments pour nous prononcer là-dessus.
Et donc le gouvernement se plaint aussi du manque de l'application de ces recommandations.
Je viens de dire ça.
On peut parler de la faiblesse.
Tous les transporteurs sont membres de la FEC. Il est bien difficile de répondre à ces questions. Donc il y a des transporteurs qui n'ont jamais adhéré à un mouvement associatif ou à un mouvement de partenariat.
Merci, mesdames Bial Mangal, Trésor Moukounia. Comment vous pouvez expliquer ces grèves dans la province de Matadi? Est-ce, Trésor Moukounia, je voulais dire, est-ce un problème de sécurité sociale, comme l'a souligné Innocent Kaboukala?
Justement, moi, je trouve que ces problèmes peuvent être abordés sous divers aspects, aspects légaux, conventionnels et du point de vue des conditions humaines dans lesquelles sont en train de travailler ces travailleurs. Nous savons bien que tout travailleur a d'abord le droit d'aller en grève, c'est un droit reconnu même par la Constitution et une façon pour lui d'exercer une pression à son employeur, on retrouve d'abord deux personnes dont l'une est économiquement forte et a le monopole d'imposer n'importe quoi sur ses travailleurs. Il s'avère alors que ces insatisfactions résultent du non-respect de certains droits légaux des fonctionnaires et de l'État congolais et des privés. Sur l'aspect conventionnel, on signe des conventions sans pour autant les respecter. Et le gouvernement qui est là, qui a le monopole, je regrette comment on peut se dire que le gouvernement c'est la montre parce qu'on n'a pas respecté ces recommandations. Pourquoi un gouvernement qui a le monopole de la coercition, monopole légitime de coercition peut se lamenter, lui n'est là que pour constater l'inexécution d'une part, l'une des parties de ses obligations et des sanctionner sévèrement. Mais à quoi on assiste? On assiste à ces genres de personnes, à ces genres d'autorités qui sont là, il y a le problème qui se pose, ils sont dans le bureau, au lieu de s'occuper du bas, peut-être qu'ils sont en train de souffrir.
Merci.
Lorsque vous entendez, par exemple, lorsque vous entendez les responsables des camionneurs dire qu'ils sont poursuivis même la nuit, on veut se reposer, il faut continuer, donc on n'a pas de repos. Chaque partie doit prendre en main ses responsabilités, l'État, l'emploi, les travailleurs, que ces entrepreneurs étrangers soient surveillés de près et que les corporations, les syndicats soient dynamiques et efficaces pour résoudre ce genre de questions.
Merci Trésor Marcounia, c'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Merci chers confrères d'avoir accepté notre invitation, merci à toute l'équipe de l'équipe, merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui nous a aidé à préparer et réaliser cette émission. Alain Irung est à la réalisation. La technique était assurée par Dieudonné Nyangasa au micro Kéline Côté. Vous retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Rediffusion demain 4h15 heure de Kinshasa. Bonsoir chez vous et bon début de week-end en compagnie des programmes de Radio Okapi.